Sur RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Russia Dobri Vietcher, bonsoir à tous et merci d'être fidèles, même si tard, à RFI et à notre émission en ces temps de Coupe du Monde en Russie. Alors, pour ce qui est des matchs du jour, eh bien, une tête d'Harry Kane et l'Angleterre remporte son premier match 2-1, victoire méritée, mais difficile contre la Tunisie qui a craqué dans les dernières secondes. Des aigles de Carthage à la peine qui ont sauvé beaucoup de situations dangereuses, mais les Anglais étaient bien plus forts ce soir. Les Diables Rouges attaquent la compétition en gagnant. Victoire face aux débutants du Panama, un score fleuve de 3-0 qui dissimule une prestation inégale, notamment en première mi-temps. Mais la Belgique prend la tête de son groupe alors que les vaillants Caneleros se sont dit fiers de leur baptême en Coupe du Monde. Un chemin de croix pour les équipes africaines que cette Coupe du Monde, une nouvelle fois. Peut-on se demander? Le premier but en tout cas a été inscrit ce soir, enfin, par la Tunisie. Mais les quatre équipes entrées en lice ont été battues. Bilan inquiétant ou à nuancer? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités dans ce studio ce soir. Patrick Juillard, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous.
Notre camarade du site Foot Africa 365. À ses côtés, quelqu'un qui est plutôt penché pour le football anglais. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté. Bruno Constant, bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Naïm Moniol. Bonsoir Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Et puis Nabil Jelit qui vient renforcer la Dream Team de la
Joker.
Soirée.
Je suis en mode force spéciale, Annie.
Oui, je vois.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Avec votre maillot aux couleurs de la Suède, hein, n'est-ce pas?
Boca Junior, non, faut pas le dire pour le réfé, mais c'est Boca Junior.
Mais Boca Junior s'est inspiré d'un drapeau, d'un bateau suédois dans le port de Buenos Aires. Si, si, alors vous.
La Lettonie.
Lettonie.
Personne ne l'a, celui-là.
Ouais, je croyais que vous viendriez avec un t-shirt de la Tunisie ce soir.
Je le dédicace à Louisa d'ailleurs, qui est une supportrice de cette équipe.
Ah ben voilà, les hostilités sont lancées.
Voilà, exactement.
Radio Foot, même en cette heure tardive, c'est parti.
Direction la Russie, pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Le corner d'Ashley Young et la tête, et le sautage et le but. Sur la pelouse du stade de Volgograd.
Badri, et là le centre de Brand. Et un
pénalty pour la Tunisie.
Sassi, contre-pied, le but tunisien, l'égalisation des aigles de Carthage. Inespéré, mais la Tunisie est là, elle revient au score, un but partout.
Le corner à venir, triplé de la droite vers la gauche, c'est bien parti, attention, le cafouillage d'Harry Kane et le but anglais, le but anglais d'Harry Kane au deuxième poteau, la libération pour les Three Lions, totalement méritée, les Tunisiens qui s'effondrent, 2-1 pour l'Angleterre, Harry Kane encore frappé.
La folie de l'autre côté du Channel, la Three Lions est entrée dans la compétition par une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner puisque les Anglais ont mis toute une deuxième mi-temps à marquer le but de la victoire. Une tête de Harry Kane pour conclure un doublé. Le match s'est terminé sur le score de 2-1. C'était le match contre la Tunisie. Nous retrouvons tout de suite dans le stade de Volgograd Eric Mamrut qui a assuré les commentaires de ce match. Bonsoir Eric.
Dobri večer, bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, vous le dites mieux que moi, hein, vous avez l'accent déjà. Eric, une chose, on a entendu votre commentaire, surtout on vous a entendu à la fin de cette retransmission. Si l'Angleterre n'avait pas marqué ce but à la 90e minute, vous parliez carrément de hold-up.
Oui. S'il y avait une telle différence entre les deux équipes, c'était impressionnant. Franchement, ça aurait été un miracle de voir la Tunisie accrocher le nul, tenir en échec cette équipe anglaise. Déjà, la première période, il aurait dû y avoir 3-0 facilement pour l'équipe anglaise. La Tunisie s'en est sortie, on ne sait pas vraiment comment. Bon, la maladresse des attaquants anglais, de Dele Alli notamment, quelques belles parades de Mouazassen, puis après de son remplaçant, mais il n'y avait que l'Angleterre sur le terrain. La Tunisie qui a marqué sur son seul tir cadré du match, et encore, ça a été sur un pénalty qui franchement était loin d'être évident sur une faute légère sur Fakhreddine Ben Youssef, transformé par Sassi. Ça a été la seule occasion de la Tunisie dans cette partie, tellement elle a été dominée. Alors certes, en deuxième période, elle a mieux tenu le choc au niveau de la défense. Faut dire que c'était tellement mauvais en première période, c'était difficile de faire pire. Mais pour moi, il y aurait dû avoir 4-0 facilement à la fin de ce match en faveur de l'Angleterre.
Oui, c'est vrai qu'on a vu l'Angleterre beaucoup assaillir les buts et rater aussi beaucoup de maladresse. Mais peut-être que l'essentiel, c'est d'avoir remporté finalement ce match, Bruno.
Oui, parce que c'est une équipe très très jeune qui est en reconstruction. Et forcément, ça donne de la confiance quand on débute sa compétition par une victoire, même si elle est difficile, même si elle est arrachée dans le temps additionnel. Moi, la différence qui me fait sourire, c'est qu'il y a 2 ans à l'Euro, Harry Kane tirait les corners et que 2 ans après, il les marque. Il marque des buts sur corner. Et c'est l'incohérence de l'Angleterre de 2016 avec la cohérence de l'Angleterre de Gareth Southgate qui est bluffante parce qu'elle est jeune et elle joue son jeu, elle presse très haut, elle joue vers l'avant souvent. Elle a une possession, c'est vraiment plaisant à voir jouer, même si c'était parfois compliqué dans la finition. Mais je suis entièrement d'accord. Il aurait dû y avoir 2 à 3 buts d'écart en première période. Lors des 4 premières minutes, il y a déjà 3 occasions de but. Enfin, c'est incroyable.
Naïm Ognol.
Oui, je suis d'accord et avec Eric et avec Bruno. Ça a été une victoire de l'abnégation, victoire que l'Angleterre ne nous a pas montrée sur les dernières compétitions. Et c'est vrai qu'au-delà du jeu plaisant, ce qui a surtout fait plaisir à voir, enfin, ce qui a fait plaisir à voir pour l'Angleterre en tout cas, c'est que jusque dans les dernières minutes, ils ont cru. Après que d'erreurs et que de naïveté de la Tunisie. Moi, je suis choqué des buts encaissés parce que on peut pas laisser un garçon comme Kane en première mi-temps sans joueur au poteau et en deuxième mi-temps tout seul à 3 mètres du but. Donc voilà, c'est aussi le très haut niveau, c'est de ne pas jouer dans la culture de la naïveté, ce qui a été un petit peu le cas de la Tunisie et des pays africains, on en reparlera tout à l'heure. Mais enfin, on va dire que l'Angleterre, en s'imposant ce soir, s'évite une suite de compétitions compliquées, notamment un match contre la Belgique.
Oui, effectivement, on y reviendra à ce groupe-là. Nabil, ce match, cette prestation, disons, ou non-prestation peut-être de la Tunisie, face à une Angleterre qui ne s'est jamais rendue.
Eric Mamrut a bien résumé les choses. Le score logique, c'est 3 ou 4-0. Il faut être tout à fait honnête. Moi, on en parlera certainement tout à l'heure sur les nations africaines, mais moi, j'ai un coup de gueule, quoi. Je comprends pas. On se qualifie à des Coupes du Monde. On a des qualités intrinsèques qui font qu'on doit jouer au football. Joue au football et perd. Là, le sélectionneur tunisien, il a fait comme Rabah Saadane, le sélectionneur algérien en 2010. Il avait qu'un seul objectif sur ce match. Pas prendre de raclée. Mais, quelle image on renvoie? Du football maghrébin, tunisien et africain. Aucune conservation de balle. Pas capable d'enchaîner un temps fort dans le camp anglais. Alors je veux bien qu'au niveau des réalités de rapport de force, effectivement, les joueurs anglais, y a plus de qualité. Mais je pense aussi qu'on est capable de proposer un autre football. Et on n'a qu'à revenir dans le passé du football. On a vu des nations africaines qui ont été capables de contrecarrer des grandes nations européennes. Mais comment ? Mais parce qu'elles ont aussi joué avec cette qualité. Donc, aux largesses défensives qu'a bien expliqué notre ami Naïm, s'ajoute aujourd'hui quelque chose qui est pour moi catastrophique, un déficit de talent dans les 30 derniers mètres.
Vous voulez ajouter quelque chose, Patrick, sur le match?
Moi, ce qui me m'attriste d'autant plus, c'est que la Tunisie, pendant les matchs de préparation, avait montré une ambition dans le jeu. C'était une équipe joueuse qui avait marqué... qui avait fait 2 partout contre le Portugal, 2 partout contre la Turquie, perdu d'un but contre l'Espagne dans les dernières minutes du match, qui était quand même plutôt qui avait l'air de tenir le bon bout et de développer quelque chose, et surtout d'être un peu en rupture avec l'ADN historique de la Tunisie, qui est une équipe qui joue à l'italienne avec un jeu très fermé. Et là, en Coupe du Monde, on a l'impression que Nabil Mahloul est revenu à ce que la Tunisie fait depuis longtemps historiquement, sauf qu'il n'a plus les joueurs pour le faire, et finalement il a subi de manière terrible, alors qu'à une certaine époque, la Tunisie avait au moins des défenseurs costauds, des joueurs comme Karim Agui, Radi Jaidi, qui pouvaient aller au charbon et subir sans trop de dommages. Là, il n'y a plus ça.
Il y a deux, trois
bons
joueurs.
Et heureusement, on a beaucoup rigolé en regardant le match tout à l'heure avec Nabil, parce que beIN Sport a mis environ 10 minutes à s'apercevoir que le gardien qui était rentré à la place de Moez Hassen, c'était non pas Ayman Matlouti, mais Farouk Ben Moustapha. Donc on peut les corriger, et peut-être qu'il faut un peu bosser ses matchs avant, on est en Coupe du Monde. Mais sans ces gardiens-là, je pense que la Tunisie aurait peut-être pris une raclée, aurait pris 3-4 buts. Voilà, et c'est un résultat pratiquement en trompe-l'œil, et c'est dommage, parce que dans l'état d'esprit, la Tunisie s'est battue, mais il suffit pas de se battre, il faut aussi un peu jouer au foot.
C'est exactement ce qu'on voyait de très loin, hein. Eric, vous deviez le voir d'encore plus près, c'est-à-dire cette équipe qui se heurtait certes à un mur, mais il y avait des sauvetages de dernière seconde de la part des Tunisiens, et finalement il n'y avait pas véritablement de confrontation, de match.
Non, ils n'ont strictement rien montré, et c'est ça qui est effectivement très très décevant. On attendait tellement mieux de cette formation tunisienne, Patrick l'a bien expliqué, on s'attendait à avoir un peu de jeu, à voir des joueurs jouer libérés, tenter le coup, quoi. Ils sont en Coupe du Monde, il faut se lâcher, il faut y aller. Mais alors, est-ce que c'est un problème tactique véritablement, ou une incapacité technique des joueurs de faire quelque chose? Est-ce que le choix des joueurs était le bon? C'est un mystère, mais en tout cas Nabil Mahloul, bon, il en était un petit peu conscient là en zone mixte, et les joueurs, ils reconnaissent que le match nul aurait été un miracle pour eux, qu'ils ne méritaient pas de remporter des points, mais bon, ils ont mis ça sur le compte de l'inexpérience surtout, mais en même temps les Anglais, ils n'étaient pas beaucoup plus expérimentés qu'eux, alors il y a plus de qualité, peut-être que du coup cette inexpérience se voit plus du côté des Tunisiens. En tout cas, ils sont conscients qu'ils doivent vite corriger des choses en vue du prochain match, surtout que ce sera la Belgique. La Belgique, c'est du costaud, quoi.
Mais oui, c'est ça, c'est ce qui les attend, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Patrick?
Moi, je trouve que si on élargit sur les autres équipes africaines, c'est la Tunisie, c'est comme le Nigeria, c'est une équipe qui n'a pas joué le jeu qu'on attendait, et le jeu qui correspondait au plan de jeu entrevu lors des précédents matchs. Le Maroc, bon, lui, c'est plus grave, il a complètement déjoué. La seule équipe qui a joué sa partition et qui a failli prendre un point, c'est l'Égypte. Mais les trois autres équipes sont passées
Égypte
totalement
et Tunisie
à côté.
On fait la même bêtise, hein.
Oui, mais l'Égypte ne fait que ça, ouais, Nabil. Ouais. Elle sait que défendre.
On y viendra tout à l'heure à ces équipes africaines. Je voulais rester sur ce match. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose,
Naïm. Oui, parce que Eric parle du sélectionneur tunisien qui dit on a perdu parce qu'il y a un manque d'expérience. On peut avoir un déficit d'expérience, mais pas un déficit de professionnalisme. Et quand on défend comme la Tunisie a défendu, notamment sur les deux buts, c'est-à-dire sans mettre de joueurs au poteau ou en laissant le meilleur avant-centre du monde tout seul à 3 mètres, c'est pas le manque d'expérience, c'est le manque de professionnalisme.
Et finalement, on s'est rendu compte que parfois vous avez des équipes africaines qui perdent, mais on voit des talents individuels. Mais là, c'est le désert de Gobi. Mis à part à la limite Sassi au milieu, qui a, allez, un peu une qualité.
Moi j'ai bien
supérieure.
Aimé Dylan Brown en latéral droit, mais c'est un latéral droit, voilà. C'est pas lui qui va changer le jeu de son équipe.
Et finalement, c'est cruel pour la Tunisie, mais il y a un joueur qui est absent, qui était peut-être leur star, c'est M. Sakni. Alors je dis pas qu'avec M. Sakni, vous allez battre l'Angleterre, mais peut-être qu'ils auraient, par séquence, réussi parfois à créer du déséquilibre. Rendez-vous compte, Annie, que lorsque la Tunisie se projetait, les trois joueurs de devant, Kazri, c'est pas un vrai neuf, hein, au niveau international, c'est pas un neuf, font les mêmes appels, ne conservent pas le ballon. J'ai pas vu des séquences avec des dédoublements sur le côté. C'est absolument famélique. Quelle image on renvoie?
Non, mais ça joue beaucoup trop bas, c'est tout. C'est une question de mentalité. On dit tactique, choix des joueurs. Non, c'est à peu près les 11 meilleurs que Nabil Mahloul a alignés pour moi. Mais c'est une question de mentalité. La Tunisie est rentrée comme l'a dit Nabil justement, pour éviter de se prendre une tôle. Et elle a pas pensé à jouer son jeu. Je pense que la Tunisie, dans un bon jour, elle peut davantage inquiéter l'Angleterre que
mais
ça.
Mais perd 4-2, perd pas comme ça.
Mais voilà, voilà, perds 5-3, au moins perd avec 5-2. Les armes à la main. Là, c'est on perd avec le frein à main.
Joue ton football.
Voilà. Alors, Eric, pour terminer, quand même, parlez-nous de cette Angleterre, parce que vous l'avez vu de très près. Et l'Angleterre, par contre, certes, elle a eu beaucoup de mal, mais elle offrait quelque chose en échange.
Bah, c'était le jour et la nuit, effectivement. Bon, en même temps, il y avait une faible opposition, effectivement. Il faudrait voir face à la Belgique ce que ça peut donner. Ça va être un match extraordinaire entre ces deux formations. Et là, la Tunisie abandonnait le ballon à l'adversaire, qui, il est vrai, s'en servait très très bien. Il y avait un très bon milieu de terrain, une organisation parfaite. On en sentait une équipe anglaise beaucoup plus stable, beaucoup plus assurée, avec beaucoup plus d'automatisme. Ça combine bien, même si en deuxième période, bon, on a vu quand même que c'était encore un peu frais, un petit peu jeune. Il faut que ça se peaufine davantage, mais si ça prend bien, si la sauce prend bien, ça peut faire mal quand même, cette équipe. Il y a du talent sur toutes les lignes, et puis au moins ils n'ont jamais renoncé, quoi. Jusqu'au bout, ils se sont battus, ils ont tenté, et ça a fini par payer.
Bruno Constant, effectivement, l'Angleterre, elle avait donné ces derniers temps une image un peu compliquée sur le plan international. On se souvient de l'Euro où elle sort contre l'Islande, on se souvient aussi de la Coupe du Monde où elle n'avait pas non plus fait un très grand tournoi du côté du Brésil. Là, elle est venue avec un autre état d'esprit, avec un jeune sélectionneur. Est-ce que vous avez senti, vous aussi, ce changement, alors en dehors d'Harry Kane, hein, qui en plus met un doublé d'entrée, et c'est lui qu'on attend pour marquer des buts?
En fait, il y a eu deux changements. Le premier, c'est au lendemain de la Coupe du Monde 2014, où ils sont éliminés dès la phase de poule. Il y a eu une réunion entre les instances anglaise, le président de la fédération, les différents entraîneurs, sélectionneurs des équipes de jeunes. Et ils ont lancé ce qu'ils ont appelé le DNA Project, donc le projet de l'ADN, pour dénicher les meilleurs talents anglais un peu partout en Angleterre, et surtout observer au maximum les autres championnats étrangers. De s'ouvrir un petit peu plus au football latin, européen, même sud-américain, parce qu'ils ont observé 3 championnats là-bas. Et ils voulaient voir comment on jouait le football ailleurs, parce que l'Angleterre était souvent renfermée sur elle-même, pensait que d'ailleurs qu'elle était la meilleure au monde. Ils ont toujours pensé ça, ils regardent très peu les autres championnats à la télévision. Et le deuxième changement, ça a été l'arrivée de Gareth Southgate, qui n'était pas du tout prévu, parce qu'il a remplacé au pied levé Sam Allardyce.
Il était son adjoint au départ.
Voilà, il était entraîneur de l'équipe Espoir et plus ou moins dans le staff. Et donc Allardyce a été viré au bout de 67 jours et un match, pour une histoire de corruption. Et Southgate a amené de la fraîcheur à cette équipe d'Angleterre. Il a amené de la cohérence, il a amené quelque chose de très simple. La communication est très claire, il donne son 11 48 heures à l'avance, tous les joueurs sont au courant. Il donne un système, le système, il a dit on va jouer une défense à 3, il a dit ça en octobre 2017. En équipe de France, on se pose la question de quel système faut jouer. En Angleterre, ils savent depuis octobre qu'ils vont jouer en défense à 3, qu'ils vont jouer avec 2 attaquants. Il y a quelques petites variantes au milieu, mais tout est très clair au sein de la sélection. Ils ont aussi évacué toute la tension médiatique qu'il y a avec les relations étaient toujours très difficiles avec les médias. Southgate a beaucoup insisté sur le fait qu'il y ait une vraie relation entre les journalistes et les joueurs. On a vu durant la semaine qui a précédé le match des joueurs qui venaient défier au jeu de fléchettes les journalistes, des joueurs qui venaient jouer au bowling dans la salle de presse. Enfin, c'est voilà, il y a une autre atmosphère, c'est beaucoup plus sain, il y a moins d'ambition. L'ambition, c'est pas cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde 2022. Ils veulent faire grandir ensemble cette jeune génération anglaise. Et avec l'espoir que ça porte ses fruits dans 4 ans.
Alors, Eric Mamrud, pour terminer, on a choisi de vous faire écouter une ambiance quand même du côté de la Tunisie, parce que en Tunisie il y avait énormément de gens malgré tout, même si on a entendu ce matin sur RFI le correspondant raconter que ce match et surtout cette équipe ne suscitait pas un énorme enthousiasme là-bas. On n'y croit pas trop malheureusement, mais en tout cas c'était l'ambiance au moment du but de la Tunisie, le but égalisateur. Voilà, ce but égalisateur, c'était dans un bar du côté de Bizerte, et où on a cru que ça pourrait tenir, et finalement quand même les Tunisiens ont tenu. Merci beaucoup Eric Mamrud d'avoir été en direct avec nous, et on vous retrouve un peu plus tard, alors toujours avec cette Tunisie. Elle joue contre la Belgique son prochain match. Eric Mamrud, bon. Eric Mamrut a disparu à Volgograd. Il a dû aller écouter. Oui, ce que disent les supporters.
Il a lâché le marquage de son micro, un peu comme certains défenseurs tunisiens la dernière minute.
Continuez à être à l'écoute de Radio Foot International et vous pouvez aussi nous suivre sur le Facebook Live du site, donc le Facebook de RFI. Et on continue. Tout le monde vous dit bonjour pour ceux qui nous écoutent. Okay. Et on continue avec l'autre équipe de ce groupe, la Belgique.
Bon, c'est pas grave.
Une chaude ambiance et de la joie dans les fan zones de Belgique, un pays où il y en a, puisque en France, à cause du plan Fiji Pirate, eh bien, on n'a pas jugé bon d'organiser des fan zones dans notre pays. Alors, nos voisins du plat pays, ils ont bien débuté la compétition par une victoire qui fut un peu longue à se dessiner, mais une victoire quand même. 3-0 sur le Panama, 3 buts en deuxième mi-temps, un de Mertens, et puis, ensuite, un doublé de Romelu Lukaku. Eden Hazard se satisfait de ce résultat.
C'est toujours important de gagner le premier match, même si c'était pas facile. Je pense que surtout la première mi-temps, on aurait dû mieux jouer. On a été bougé par cette équipe de Panama qui a joué grandement sa chance. Après le premier but, c'est toujours plus facile. On s'était dit dans le vestiaire qu'on essaierait de marquer vite. On l'a pas fait en première mi-temps, on l'a fait vite en deuxième mi-temps. Donc ça nous a permis de nous libérer et d'essayer de jouer avec nos qualités. Au final, on gagne 3-0 et je pense que on aurait pu mettre plus de buts. Maintenant, on a gagné le match, on est content, mais il y a toujours des choses qu'on peut améliorer.
Alors les Diables Rouges ont peiné, certes, mais il faut dire que les Canaleros en face, les Panaméens, ils leur ont quand même donné beaucoup de fil à retordre, Nabil Djellit.
Oui, chapeau Panama, j'ai envie de vous dire, c'était leur... C'est évidemment leur première
match. Le premier match
pour cette nation d'Amérique centrale qui a joué avec ses qualités, beaucoup d'impact athlétique, une organisation intéressante, surtout défensivement, avec un bloc très bas et avec une concentration de joueurs.
À Radio Foot, on suivait le match avec Carlos Bianchi, qui était dans la première émission cet après-midi, qui disait non mais moi quand je suis buteur et que je vois ce rideau de défenseurs devant moi, ça devient très compliqué.
C'est très compliqué. Et puis Eden Hazard, c'est bien parce qu'il le souligne, il explique tout en disant que faire sauter le verrou, dès que tu mets le premier but, en général, t'as plus d'espace. Et puis surtout mentalement, c'est un coup dur pour les adversaires parce qu'ils savent très bien qu'ils ont peu de moyens pour pouvoir revenir, à moins qu'il y ait Walker dans la défense.
Ils ont eu aussi un peu de mal à tenir sur la distance, parce que physiquement ils étaient.
Franchement, ils ont fait leur match. Après, cette équipe belge, on va en discuter, mais moi, leur système de jeu là du 3-4-3, ça m'inquiète un petit peu. Mais pour le reste, franchement, devant.
Le Panama, ajoutons que certains joueurs, et notamment Aníbal Godoy, milieu de terrain, ont pleuré pendant l'hymne parce que c'était la première fois qu'on jouait l'hymne du Panama en Coupe du Monde. Et pour eux, évidemment, c'était un grand moment d'émotion. Mais alors parlons de la Belgique, effectivement. Naïm Moniol.
Ben oui, il y a eu deux visages, une première mi-temps très moyenne parce que le manque d'espace, ça permet pas à des joueurs comme Hazard de se déplacer. Puis Lukaku Mertens, ça avait toujours deux joueurs, c'est des prises à deux, c'est très très compliqué. À partir du moment où ils ont marqué en deuxième mi-temps, Panama est sorti, ça a libéré des espaces et des garçons comme Lukaku, comme Hazard, comme Mertens, dès qu'on leur laisse 3 ou 4 mètres, ils font partager la puissance. Donc ils ont globalement géré leur match. Il y a eu une occasion, je crois, pour le Panama, mais globalement, ils sont pas mis en danger. Wow. Ils marquent 3 buts, ils en prennent pas. Ils imposent aussi un certain statut d'outsider qu'ils n'avaient pas imposé d'entrée à l'Euro 2016. Et c'est plutôt de bon augure pour eux. Même si le match de la poule a ne pas manqué pour eux, ça sera l'Angleterre qu'ils ont joué l'équipe la plus faible.
De bon augure pour vous?
Je trouve que les commentaires sont quand même un peu sévères. Oui, la Belgique, la manière n'était pas là.
Elle a mis plus d'une mi-temps à marquer.
Pour un premier match contre une équipe.
Une
sorte de glue défensive comme bien épaisse comme le Panama. Je trouve qu'ils les ont bien, pardonnez-moi l'expression, décapsulés. Et ils ont fait leur boulot et j'aurais bien aimé que la France fasse aussi bien contre l'Australie et c'était pas le cas. Donc moi ça m'allait très bien. De Bruyne par contre grosse déception sur ce match.
On sent quand même qu'il a un peu de ballon parce
Mertens, le caviar qui donne sur la tête de Lukaku.
Heureusement qu'il a un peu de ballon franchement c'est pas le meneur de jeu qui est censé prendre en main l'équipe et on laisse trop le champ d'initiative à Hazard, il faut pas qu'il en ait trop sur ses épaules. Et puis Mertens quand même mon coup de cœur, un but de cours de récré comme je dis, c'est-à-dire la reprise de volée droite.
Magnifique.
Du coup de pied comme ça, c'est rare, normalement c'est toujours un peu de l'extérieur ou Mais avec un effet, là, c'est le but que tout le monde, tout attaquant rêve de marquer.
Bruno Constant, cette Belgique, on l'attend à chaque fois, on l'attend dans
l'équipe d'Angleterre, c'est ça?
Dans les compétitions. Oui, mais il y a beaucoup d'autres équipes d'Angleterre.
Il y a le Sénégal aussi.
Non, mais avec tous ces joueurs de première ligue, c'est pour ça que je dis ça.
Effectivement, on a bien compris. Mais ce que je voulais dire, c'est cette équipe, on l'attend beaucoup, on se souvient notamment à l'Euro, même à la Coupe du Monde en 2014 aussi. Cette génération, on peut se dire que c'est enfin l'heure pour eux, parce que on les attend depuis 4 ans et là il faut vraiment
faut pas tirer de conclusion après un seul match hein.
Non,
parce que
non,
rappelons
non,
nous il y a 4 ans
ils commencent
ils avaient bien commencé contre l'Algérie après
ouais, mais je dirais que j'ajouterais juste
dégonflé, hein.
J'ajouterais juste qu'ils commencent peut-être mieux que l'Allemagne que l'Argentine ou que le Brésil qui figure parmi les favoris.
L'Allemagne est finie,
c'est vrai qu'on les attend, faut regarder leur effectif,
c'est normal,
ils ont un effectif énorme, ils ont des stars quasiment dans toutes les lignes qui jouent dans des grands clubs européens, ils ont fait la Coupe du Monde où ils étaient un peu débutants, l'Euro où ils ont commencé un peu à monter en puissance. Là, clairement, moi, je les attends dans le dernier carré parce qu'ils ont les joueurs pour. Après, effectivement, ils ont une puissance offensive qui est juste exceptionnelle, qui est l'une des meilleures du tournoi, je pense. Mais et même au milieu, avec De Bruyne, qui, à mon avis, j'ai pas trouvé catastrophique
De Bruyne.
Mais De Bruyne, il est loin du but adverse.
Il joue beaucoup plus bas.
C'est très compliqué pour lui d'être dangereux.
Et un joueur, je pense, qui manquait aussi à la Belgique, c'est Moussa Dembélé de Tottenham, qui est un joueur fantastique quand.
Mais il paye De Bruyne, justement, lui.
Pour casser les lignes, balle au pied, et Witzel, par exemple, elle l'a jamais fait dans ce
match. Alors, je suis pas fan, je vous le dis entre nous, là.
entre nous,
leur 3-4-3. Alors, ça me dérange pas le 3-4-3. Quand c'est bien joué, c'est parfait, vous étouffez l'adversaire. Mais j'ai une réserve à y mettre. Ça met en valeur les joueurs de côté qui sont des pistons fantastiques. Pour le coup, Meunier, j'ai pas trop de soucis avec, mais Ferrar Carrasco, je trouve que c'est une reconversion qui m'interpelle. Et surtout, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'il a peut-être les deux pieds, mais c'est pas du tout un gaucher exclusif. Et il est du côté de Hazard, qui a tendance, lui, quand il a le ballon, à rentrer. Mais que va faire Ferreira Carrasco? Je l'ai vu une ou deux fois en situation de centrer avec son pied gauche. Il est revenu également. Donc,
je vais répondre tout simplement parce que Roberto Martinez, donc quel sélectionneur, son système préférentiel, c'est une défense à trois. Dans tous les clubs où il est passé,
à Swansea,
à Wigan, à Everton, défense à trois. Et l'autre raison pourquoi il joue en défense à trois, c'est parce qu'il a pas de latéraux, il a que des axiaux. Il y a Compagny qui est un axial, il y a Alderweireld qui est un axial, Vertonghen qui est un axial, Boyata qui est un axial. Il y a rien.
Il a laissé Jordan Lukaku au garage quand même.
Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il a construit cette équipe comme
sur
ça.
Sur Ferreira Carrasco, on peut quand même.
Je suis d'accord avec toi, c'est un gâchis.
Sa défense à 3 va poser problème aussi parce que Compagny ne joue pas et qu'il est blessé. J'ai peu de chances qu'on le revoie.
Moi, c'est ça. Au-delà du
3-4-3,
non, mais au-delà du 3-4-3, moi, la défense, autant Courtois, il y a rien à dire. C'est un gardien de classe mondiale. J'ai aucun doute sur lui. Il est très courtois, même, oui, absolument. Et par contre, la défense, j'ai encore un peu.
Il est en forme.
Alderweireld, Vertonghen, c'est costaud, hein,
défensivement. Oui, mais c'est pas les individualités, c'est l'animation défensive.
Tout va dépendre aussi comment les pistons reviennent défendre. Alors Meunier là non plus, j'ai pas de soucis, mais si Ferreira Carrasco fait pas les efforts, tu vas quand même te retrouver avec.
Ferreira Carrasco qui joue en Chine, qui a eu des problèmes de genoux récurrents, donc c'est un système qui peut être fantastique, mais à la moindre faute tactique, à la moindre compensation insuffisante,
ça peut être un trou
tout de suite.
Justement, c'est pas un peu étonnant de voir sur la liste de cette Belgique, et même titulaire ce soir, Naïm, deux joueurs qui évoluent désormais en Chine, même si Carrasco se souvient de lui à Monaco et à l'Atlético.
Mais c'est un projet sportif, qu'est-ce que vous voulez? Oui, si, ça peut être étonnant. Après,
je sens votre ironie.
Moi, je me mets aussi à la place de Roberto Martinez. Ferreira Carrasco et Witzel, si vous les prenez pas, c'est quand même du gâchis, parce que c'est des garçons de gros potentiel qui préférer partir en Chine pour des raisons peut-être extra-sportives. Mais moi, je comprends qu'ils jouent. Le Brésil aussi a souvent pris des joueurs comme ça qui jouent en Chine. Ou
Paulinho revenait de Chine, il a été performant au FC Barcelone.
Le Nigeria aussi avait deux titulaires qui jouent en Chine, c'est pas forcément une référence.
Oui, c'est sûr. Mais enfin, ça reste des joueurs de grand talent.
Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno, là, un truc que moi, si je suis belge, entre guillemets, Moussa Dembélé, tu peux pas le laisser sur le banc, c'est un joueur fantastique. Non. Tu te débrouilles, je sais pas comment tu fais, mais tu le mets sur le terrain.
Il a des pépins physiques, c'est pour ça qu'il apparemment ne débute pas, mais je suis entièrement d'accord. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Le problème, c'est qu'ils ont énormément de joueurs offensifs.
Oui.
Et c'est
mais
pour ça qu'il
est obligé de
recruter
De
Bruyne. C'est pour ça qu'il veut pas Ngolan, c'est qu'il a trop de milieux offensifs et qu'il est obligé de faire De Bruyne au milieu offensif.
Il veut pas sortir De Bruyne surtout, c'est ça.
Alors dans ce groupe, on aura donc les prochains matchs que seront Belgique, Tunisie et Angleterre, Panama. Benzema. Une question, messieurs, avant de filer du côté de Istra, où nous attend Antoine Grenier, on pourra parler des Bleus. Justement, on a eu demain, entre en compétition, le Sénégal qui jouera contre la Pologne. Ce Sénégal a peut-être une énorme pression, c'est de sauver l'honneur des équipes africaines. Ouais. Cinquième jour de compétition, quatre formations africaines, elles ont toutes perdu, l'Égypte face à l'Uruguay, le Maroc face à l'Iran, le Nigeria face à la Croatie, et puis donc tout à l'heure, la Tunisie face à l'Angleterre. Que faut-il en tirer, Patrick Juillard?
Ce qu'il faut en tirer, c'est déjà qu'il faudrait être un peu professionnel dans la manière de défendre, puisque les 6 buts encaissés par les équipes africaines ont tous été sur des coups de pied arrêtés, et 3 de ces 6 buts l'ont été dans le temps additionnel de la deuxième période.
Ou plus.
Et dans les 3 cas donc, de ces buts pris dans le temps additionnel, c'est des buts qui coûtent des points aux équipes en question. À chaque fois, ça les prive d'un match nul. Donc ça, c'est déjà catastrophique.
Mais c'est aussi des équipes qui subissaient. C'est pour ça
que le Sénégal va peut-être subir, mais on peut subir sans.
C'est compliqué quand même.
Si on subit 91 minutes, on peut subir 93.
Oui, dans l'idéal.
Un match, ça se joue sur la totalité du match. Ensuite, pour le Sénégal, moi, j'attends surtout le point tournant, la clé du match.
On parle pas du Sénégal, c'est les autres.
Est-ce qu'il va être au niveau qu'on attend de lui pour tirer l'équipe vers le haut?
C'est pas le Sénégal, c'est les quatre équipes qui ont déjà joué.
C'est pas les quatre fantastiques, c'est les quatre pathétiques, là, sur le coup.
Naïm Ognol.
Alors, mis à part le Maroc, que je mets à part parce qu'il a joué une équipe qui était largement à sa portée, on va dire que les 3 autres, je trouve presque normal, logique, qu'ils perdent. La Tunisie contre l'Angleterre, l'Égypte contre l'Uruguay, le Nigeria contre la Croatie. Sur le papier, il n'y a rien d'affligeant. Après, il y a le scénario qui pose problème. Ouais, c'est-à-dire que quand vous perdez sans rien montrer, comme l'a fait la Tunisie ce soir,
ou le Nigeria
qui a été catastrophique, alors même si les joueurs sont pas tous à leur place et que Garnotroir a fait un truc un peu alambiqué, vous pouvez perdre, mais pas avec la culotte baissée, et en l'occurrence, c'est ce que montrent les pays africains depuis le début,
sauf l'Égypte, très gênant,
sauf l'Égypte qui reste dans sa culture
dans
très coupériste,
hyper défensif.
Voilà, très Hector Cooper, très derrière. Ils ont perdu et globalement l'Égypte, on peut pas les blâmer. Perdre contre l'Uruguay, c'était pas contre cette équipe qu'il fallait prendre des points dans l'idéal. Mais mis à part le Maroc qui a été excellent sur 25 minutes et derrière complètement affligeant, un petit peu comme la France contre la Colombie, eh ben on va dire que globalement il y a rien d'affligeant dans les défaites, mais c'est le scénario qui pose problème. Et sur les matchs qui arrivent, ils ont le droit de perdre parce qu'ils ont joué contre des équipes qui sont plus fortes, des individualités qui n'ont pas l'habitude de jouer en Afrique. Mais il va falloir montrer autre chose dans le comportement et surtout jouer au foot parce qu'il y a les joueurs pour ça.
Oui. Nabil.
Déficit de talent, équipe moyenne pour l'instant. Pas de projet de jeu, aucune ambition, complexe par rapport à des nations comme aujourd'hui.
Ça joue ça?
Bah oui,
quand le Maroc va jouer contre le Portugal, ça va être.
J'ai l'impression qu'on est revenu 20 ans en arrière.
Mais pire que ça, pour le complexe, c'est que le Maroc a eu par contre un complexe de supériorité vis-à-vis de l'Iran, en se disant de toute façon, bon, l'Iran, on les battra, les gros matchs, c'est Portugal et Espagne. Erreur
on verra
fatale.
Après. Ouais. Bruno, avec votre regard.
Mais moi, je suis surpris que vous soyez surpris. Parce que moi, quand je vois le niveau des équipes, je m'attendais à ça, en fait. Ces équipes africaines, elles ont brillé où avant? En tout cas, celle-là. Ou en Coupe du Monde, est-ce qu'elles ont déjà brillé?
Mais regardez les joueurs offensifs.
Le Nigeria est souvent sorti.
Le Nigeria, on sait qu'il y avait
passé en 8e de finale.
Des Jeux Olympiques.
On sait depuis très longtemps que le Nigeria n'est pas une bonne génération là. Depuis 2 ans, ça colle pas.
Oui,
ça marche pas.
Et il n'était pas au Cannes d'ailleurs derniers temps.
Ça me surprend pas.
Alors Bruno, pardonne-moi de te contredire légèrement. Le Nigeria, c'est l'équipe qui s'est qualifiée en premier en zone Afrique dans une poule avec l'Algérie, le Cameroun et la Zambie. Donc je pense plutôt que l'équipe est peut-être mal préparée.
L'équipe, on sait que c'est
génération aussi, elle est troisième des Jeux Olympiques.
Non, mais Nigeria, on peut attendre plus quand même, parce qu'il y a de la qualité.
C'est pas la même compétition. Mais c'est pas la même compétition, les JO.
Je pense qu'on pouvait attendre
mieux. À moins que tous les jours, c'est une compétition.
Ce qui est surprenant,
c'est pas la même chose.
Bruno, tu peux être surpris qu'on soit surpris. Mais globalement, ce qu'on met en relief, c'est pas qu'ils perdent face aux équipes européennes, c'est la manière
dont elles perdent.
La manière, on est d'accord.
Et moi, je peux comprendre.
L'état d'esprit, moi, je dirais plutôt. Et on parlait de Tunisie, on parlait de la Tunisie. Moi, effectivement, je suis choqué dans l'approche du match. C'est-à-dire que les deux plus fortes équipes, ça va être la Belgique et l'Angleterre, tu sais que t'as rien à perdre. Tu sais qu'au pire, au mieux, tu fais un match nul. Voire sur un hold-up.
Mais soyons honnêtes, Bruno.
Joue comme le Mexique, joue chaque contre-fond.
Qu'est-ce que tu veux espérer quand tu
attaques à 4 ou 5?
Qu'est-ce que tu veux espérer quand de l'autre côté, t'as des Harry Kane ou des Lukaku et toi, tu te tu te pointes avec des Boutaïb ou Del Khaabi qui était
encore.
Oui,
mais les Mexicains, il a raison. Les Mexicains, ils ont
attendez,
surpris.
Mais Ali, je suis désolé.
Avec,
je suis pas d'accord avec vous.
Le Mexique, ça se qualifie
régulièrement huitième de finale. C'est un championnat compétitif.
Comme le Nigeria.
C'est une équipe sous-cotée. C'est une équipe qui met de la vitesse.
Oui, mais c'est une équipe qui met du rythme. C'est une équipe qui attaque à 5. C'est une équipe qui prend sa chance à chaque fois.
C'est exactement. C'est ça. Ce sont les intentions. Les intentions du Mexique, c'était de rentrer dedans face à l'Allemagne, de pas les laisser respirer. Ils ont eu
l'Allemagne qui avait en Afrique, elle est championne d'Afrique.
Pas sûr.
Je te le dis tranquillement, moi.
Surtout, ils ont eu la chance relative de tomber sur une Allemagne complètement à la rue, ce qui n'était pas le cas de l'Angleterre ce soir contre la Tunisie.
Tu ne bats jamais l'Allemagne par hasard.
Alors, messieurs, dernier petit exercice avant qu'on se dirige vers Istra, exercice proposé par Guillaume Ploquin et David Finzel, bien sûr.
Votre pronostic ?
Et le vôtre ?
Mais je ne suis pas un devin ! Je suis un malin ! C'est tout !
Nous sommes d'accord.
Alors évidemment, c'est génial.
Ah bah moi, je
un pronostic, moi, alors vous n'êtes pas devin, mais un petit pronostic pour Pologne-Sénégal.
Mon cœur me dit le Sénégal, mais moi, Annie, je suis quelqu'un de cohérent. Je vais rester sur ce que je vous ai dit. Je vous annonce le 0 sur 5 pour l'Afrique. Je vois aucune équipe africaine se qualifier en huitième de finale.
Ah, d'accord.
Mais Sénégal
mais
demain.
Mais ils peuvent gagner ou pas demain?
Bah, évidemment qu'ils peuvent gagner, mais je suis inquiet.
Je vous demande juste un résultat.
Vous voulez le résultat?
Oui.
2-1 pour le Sénégal.
Pronostic.
Voilà, désolé.
D'accord.
Un partout.
Naïm.
Un partout.
Un partout, pareil, je vois pas le Sénégal battre cette équipe.
2-1 pour la Pologne.
Bon, alors on note, on enregistre, c'est filmé.
Désolé pour mes amis sénégalais.
Je peux encore changer.
Et demain? Bah oui, bien sûr, Naïm.
Alors moi, très sincèrement, je pense que la Pologne va gagner. 1-0.
Très sincèrement. Bon, voilà. Alors 1-0, d'accord. Eh bien, on verra demain, évidemment, puisque le match sera retransmis sur l'antenne de RFI. Il sera retransmis par Olivier Pron et Christophe Jousset, qui se trouvent donc à Moscou. C'est dans le stade de Moscou.
Bienvenue en Russie, les amis.
Allez, les petits.
Direction Istra, donc là où se trouve la datcha des Bleus, dans cet entre-deux qui sépare l'équipe de France de l'Australie qu'elle a vaincue. On va en parler, va parler de la manière dont elle l'a vaincue et du Pérou qu'elle jouera jeudi. Eh bien, les joueurs ont repris leurs habitudes dans leur résidence donc hôtelière à une soixantaine de kilomètres de Moscou après leur victoire compliquée. Et nous allons parler eh bien avec Antoine Grenier parce que justement ces joueurs ils sont rentrés à leur hôtel, mais quand même ils sont encore entraînés aujourd'hui et on prend les dernières nouvelles avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine, ou bonsoir plutôt.
Bonsoir Annie, salut messieurs, bonsoir tout le monde.
Alors il paraît qu'on dit private en private ou quelque chose comme ça en russe pour dire
Priviet.
Salut. Priviet.
On dit Pliviet, ça se prononce à peu près comme
Pliviet.
Ça.
D'accord, on apprend au moins. Antoine, 34 degrés, chaud soleil et sur le terrain aujourd'hui du côté d'Istra. Par contre, une petite inquiétude peut-être, racontez-nous, Antoine Griezmann a été ménagé.
Oui, alors 34 degrés, je pense que le thermomètre était vraiment placé au soleil. Hein. Il faisait certainement plutôt aux alentours de 30. Oui, effectivement, Antoine Griezmann, il a été très largement ménagé. Il y a eu un entraînement qui a commencé tout à fait classiquement avec une séance de course avec tout le groupe à 23. Et au moment où les joueurs se sont préparés à disputer une petite opposition à 9 contre 9, Antoine Griezmann, lui, il a continué à courir à part avec un des kinés du staff de l'équipe de France, Guillaume Vassou. Il a fait des tours de terrain, plusieurs, avant de rentrer au vestiaire définitivement. L'attaquante de l'Atlético de Madrid touché au tendon d'Achille, a-t-on appris. Mais c'est pas le seul à avoir été ménagé. Il y a également Samuel Umtiti et Thomas Lemar qui ont effectué quelques longueurs de terrain avec le préparateur physique avant eux aussi de regagner les vestiaires. Voilà donc un petit entraînement à 20 joueurs aujourd'hui pour les Français, puisque Hugo Lloris, lui, on l'a vu discuter avec un membre du staff avant l'opposition et puis se diriger directement vers les vestiaires, lui non plus n'a pas joué. Voilà donc 4 joueurs qui n'ont pas ou pas participé quasiment à cet entraînement aujourd'hui.
Résultat de la confrontation avec les Kangourous, donc notamment Griezmann, c'était quand il a souffert le penalty.
Oui, c'est il a été touché, je vous le disais, au tendon d'Achille lors de cette rencontre, Antoine Griezmann. Et il faut aussi admettre que sa saison, elle a été longue au Madrilène. Donc, il y a une volonté du côté de l'encadrement de l'équipe de France de surtout pas le sursolliciter, parce que c'est l'élément indispensable en attaque. Les autres, mis à part peut-être Kylian Mbappé, sont interchangeables. Mais Antoine Griezmann, la composition de l'équipe, elle est quasiment faite autour de lui. Donc, il y a une volonté de surtout préserver Antoine Griezmann.
Alors justement, revenons sur cette prestation des Bleus samedi à la mi-journée contre l'Australie. Le plus important, sans doute, eh bien, c'était le résultat et d'avoir remporté les 3 points. Mais le match a provoqué quelques interrogations et les joueurs en ont conscience. Écoutons Blaise Matuidi. Vous l'avez écouté tout à l'heure en conférence de presse et il l'a reconnu donc à demi-mot.
On a cette humilité. C'est pas ce match-là qui fait qu'on a besoin d'humilité, parce qu'on l'a toujours eu, l'humilité. C'est une expérience pour nous tous. Le talent, c'est super, c'est très bien, bien sûr, mais ça ne suffit pas forcément et on en a tous pris conscience. De savoir que rien n'est facile dans le football comme dans la vie, voilà, il faut aller chercher. La victoire, elle vient pas comme ça en claquant des doigts. On a beau avoir la meilleure équipe sur le papier, ça veut rien dire. Et on l'a vu dans cette compétition. On voit que la Coupe du Monde, c'est facile pour personne. Des équipes qui sont censées normalement gagner n'ont pas forcément obtenu le résultat escompté. Et nous, ça a été le cas. On a gagné. Alors oui, bien sûr, des mots à dire sur cette victoire, mais à l'arrivée, ce qui compte, c'est de gagner.
Des mots à dire sur cette victoire, Naïm. On a notamment vu, Antoine nous dit, Griezmann est le premier sur la liste et ne sort pas de l'avant de cette équipe de France, mais c'est quand même aussi un de ceux qui a été sorti par Didier Deschamps.
Bah, il a été décevant, Antoine Griezmann, comme l'essentiel de l'équipe d'ailleurs, mis à part N'Golo Kanté. Ce que dire sur ce match, c'est-à-dire qu'en fait, je vois le même match de l'équipe de France depuis maintenant presque un an, c'est-à-dire une équipe qui a le ballon globalement, la possession du ballon et la possession territoriale, mais qui finalement se procure très peu d'occasions et très peu efficace, surtout compte tenu du talent qu'elle a et qui en plus derrière se retrouve régulièrement en difficulté face à des équipes beaucoup plus faibles. Et moi, je veux bien que l'Argentine ait été tenue en échec, que l'Allemagne ait perdu, que le Brésil ait été tenu en échec, mais ils l'ont été par des nations de football ou en tout cas des équipes qui sont sur des grosses dynamiques. Certainement pas par une équipe qui a joué à 10 derrière et qui a pas réussi à aligner 3 passes de suite. Oui. Voilà. Moi, ça me gêne beaucoup. J'en ai beaucoup parlé avec notre camarade auditeur Ibrahim Al-Bachar, qui vous salue d'ailleurs, Annie, toutes les semaines. Sur Twitter tout à l'heure, globalement cette équipe, elle peut avoir tous les talents qu'elle veut devant, elle joue mal, il y a beaucoup de choses à changer, Deschamps changera une partie, très certainement Giroud va revenir, Matuidi aussi, il en changera pas. Comme
Sidibé aussi peut-être.
Très certainement peut-être, oui, Sidibé, puis l'autre problème, Paul Pogba qui lui va rester bien titulaire jusqu'à la fin de la compétition, quelle honte. Et puis voilà, donc
ah bon, à ce point-là
globalement...
je suis pas d'accord là quand même.
Ah bah oui, bah, vous
et
êtes pas d'accord.
Et sur les deux buts de l'équipe de France,
oui, là aussi,
après on peut me l'expliquer aussi, comme on veut.
Sur tous les mauvais matchs, mais bon.
C'est que Paul Pogba le problème de l'équipe de France.
Ah non, mais c'est pas
France,
que Paul Pogba, mais c'est aussi
quoi.
Paul Pogba. Et lui, bizarrement, il ne change jamais.
Allez-y, Nabil.
Bon, j'entends les réserves qu'a Naïm sur Paul Pogba, qui n'est pas la courroie de transmission qu'on peut espérer. Bon, le putsch a raté, pour vous la faire simple.
Il voulait les pas jeunes.
Dire, voilà, j'espère Dembélé, qu'on n'est pas comme en 2008
Dembélé,
avec
Mbappé.
Une transition démographique, comme on dit, entre jeunes et cadres décrits. Il a beau rôle, Matuidi, lui, il a été extrêmement déçu, puisque c'est un garçon qui a été un des hommes forts, un des tauliers de Didier Deschamps. C'est vrai qu'il y a un problème de cohérence. Moi, à titre personnel, j'ai jamais été fan de Giroud. Je vais pas changer d'avis. Mais vous travaillez pendant 2 ans avec Giroud et Griezmann autour. Et pour le premier match de la Coupe du Monde, ça ne ressemble pas à Didier Deschamps, soyons honnêtes. Il vous sort un 4-3-3 avec Dembélé sur le côté, qui a fait une saison en demi-teinte.
C'est quasi blanche même,
ouais,
si
voilà.
Tu prends ses blessures.
Donc c'est vrai qu'on a le droit d'être surpris. Alors évidemment, on va revenir à la normale. C'est quand même extraordinaire. Tout le monde ne voulait plus de Giroud et de Matuidi. Au bout de 45 minutes, tout le monde les réclame. Non mais c'est incroyable. Donc c'est vrai que ça interroge. Après, sur le reste, effectivement, on est une équipe qui est capable de coups d'éclat. On peut battre n'importe qui, je vous le dis très sincèrement. Mais on peut aussi perdre comme n'importe qui. Parce que franchement, face à l'Australie, merci la vidéo et merci la baraque.
Non mais, Patrick.
Moi, je suis d'accord. Il y a un flou.
On va aller écouter Antoine.
Il y a un flou qui s'accentue de mois en mois et de match en match. Alors, est-ce que Didier Deschamps a une idée de la manière dont il veut faire jouer cette équipe? Si on joue en 4-3-3 avec des joueurs sur les côtés, on met des joueurs qui sont faits pour jouer à ces postes-là et on leur dit, vous restez sur le côté.
Tu restes sur la ligne,
vous faites
en général.
Des centres. Moi, si je suis sélectionneur et que je vois le match de Mbappé contre l'Australie, à la mi-temps, il sort parce qu'il n'a pas respecté les consignes. S'il doit jouer sur un côté, il reste sur le côté. Sinon, on passe en 4-4-2 et on met un meneur de jeu comme Nabil Fekir. Mais Bruno, ça ne rime à rien ce qu'il a fait.
Mais c'est vrai qu'il y a de l'incohérence totale. Et là, pour reprendre ce que disait Antoine, je suis pas d'accord sur le fait que l'équipe est pas construite autour de Griezmann. En tout cas, elle n'était pas face à l'Australie. Parce que Griezmann, il aime quoi? Il aime tourner autour d'un attaquant. Exactement. Qui est un peu un pivot. Giroud, c'est pour ça
qu'on dit toujours de lui.
Et là, on le sort de son poste de prédilection. On met deux joueurs devant qui sont joués. On ne sait pas s'ils doivent jouer sur les côtés, s'ils doivent jouer dans l'axe. Au final, les trois sont dans l'axe.
C'est l'émergence d'Mbappé qui a redistribué les cartes. Voilà.
Mais un peu trop rapide. Non, mais
je trouve quand même qu'un garçon comme Deschamps, que l'on dit imperturbable, est quand même très sensible à l'opinion publique. Et si demain il y a une campagne de presse pour dire qu'il faut mettre Areola avant-centre, Areola sera avant-centre.
On n'exagère pas, mais c'est surtout que Antoine, on ne sait pas quel est le poste de Mbappé. Est-ce que c'est un attaquant de pointe ou est-ce que c'est un joueur de côté? Et ça, c'est un flou qui pose problème à l'équipe.
Il y a Pogba Antoine Grenier, là-bas à Istra, est-ce que tous ces débats qu'on a de ce côté vous parviennent? Est-ce que, par exemple, les cadres qui étaient absents et qui sont rentrés pendant le match, on les a quand même remarqués, comme le disait bien Nabil, Matuidi, Giroud, et puis Nabil Fekir, on dit toujours qu'on cherche un numéro 10 sur ce terrain, est-ce que lui, il pourrait tout d'un coup avoir ce rôle?
Bah, il pourrait, bien entendu. Mais est-ce que c'est la volonté de Didier Deschamps de jouer avec un réel numéro 10? Je vous disais que l'équipe était composée autour d'Antoine Griezmann. C'est assurément le premier nom que Didier Deschamps couche sur sa feuille avant au moment de faire sa composition d'équipe. Après qu'il se soit trompé tactiquement en mettant Mbappé et Dembélé à côté, voilà, c'est une chose. Par rapport aux débats qui se font jour en France, on a exactement les mêmes ici, et on sent poindre du côté de Blaise Matuidi, parce que c'est pas la première fois dans le son que vous avez passé, il y a une petite pique à l'égard des jeunes, et c'est pas la première fois que Blaise Matuidi adresse un petit tacle à Mbappé, à Dembélé, qui sont régulièrement accusés d'être un petit peu nonchalants sur le terrain et de pas participer aux tâches défensives. Il y a une sorte de... Allez, on va pas dire de fracture, mais il y a une petite fêlure là au niveau générationnel dans cette équipe de France qui, tant que l'équipe va gagner, ne posera certainement pas de problème, mais qui, dès qu'elle va commencer à perdre, risque là de créer des vrais gros problèmes. Et le match contre l'Australie a forcément creusé encore un petit peu cet écart entre les générations, parce qu'on a à nouveau vu des jeunes qui ont été relativement empruntés, mis à part Lucas Hernandez, Dembélé, Mbappé, Tolisso même, ont été complètement, sont passés complètement à côté de leur match. Et ce sont les vieux, les briscards, Giroud, Umtiti, qui ont tenu la baraque.
Et Lloris.
Didier Deschamps, qui est quelqu'un de pragmatique et qui va forcément analyser le match comme nous on le fait, va certainement travailler sur cette forme du moment. C'est pour ça que Matuidi et Giroud devraient être largement titulaires lors du prochain match contre le Pérou. Quant à Nabil Fekir, sa rentrée, elle a été correcte, elle a pas été phénoménale non plus contre l'Australie. Je suis pas sûr qu'il ait réellement acquis une place de titulaire juste sur le match contre l'Australie.
Mm-hmm. Il faudra compter également, Antoine, je sais pas si vous avez des informations à ce niveau-là, moi j'ai des échos même si je suis très loin, on me dit que Sidibé, alors Lucas Hernandez devrait rester à gauche, Sidibé notamment pour son apport offensif, même si Pavard n'a pas déçu défensivement, mais il n'apporte pas. Alors ça dépend aussi de l'animation qu'il y a autour de lui, des relais.
Si l'ailier droit est jamais sur l'aile et toujours dans l'axe, c'est sûr qu'il ne peut pas apporter grand
chose. Ensuite, Sidibé apporte davantage, et il y a un truc que Pavard ne fait pas très bien, parce que Pavard c'est un défenseur central de formation, il peut jouer milieu défensif également, quand on en parle avec des grands recruteurs, et il sera recruté comme ça, c'est que quand il crochète sur son pied droit, il ne centre jamais de son pied gauche. Et ça pose un problème. C'était Sagnol qui le faisait très bien avec l'équipe de France, et Sidibé le fait également.
Eh bien, voilà Antoine Grenier, des échos venus de Paris, mais peut-être que vous avez quelques échos vous aussi, Sidibé, non?
En tout cas, Djibril Sidibé a participé à la séance en entier. Il a été plutôt correct. Et effectivement, Nabil disait tout à l'heure pour la Tunisie qu'il n'y avait pas de dédoublement sur les côtés. L'équipe de France, c'est exactement pareil.
Il y avait
Benjamin Pavard est un joueur défensif, donc beaucoup plus défensif que Sidy Bé. Donc Sidy Bé peut être une solution largement.
Merci beaucoup Antoine Grenier pour ces derniers échos venant d'Istra. Bonne continuation du côté de la Russie. Merci beaucoup,
merci
messieurs,
merci,
d'avoir été dans cette émission filmée, donc le Facebook Live, et je remercie toute l'équipe de Facebook Live
filmé, hein,
qui était là. Merci aussi à Guillaume Ploquin et à David Finzel.